Et la démocratie alors ?
Mardi 10 décembre, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On est à Lille, on est juste devant les locaux de l'IEP, c'est Sciences Po Lille. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ? Vous êtes étudiant, c'est ça ?
Oui, je suis étudiant, je ne suis pas étudiant à Sciences Po Lille. Par contre, je suis venu en soutenir les étudiants mobilisés de l'IEP. En fait, il y a une AG hier soir, une AG des étudiants de l'IEP qui a voté à la majorité démocratique, quoi, le blocage de l'IEP aujourd'hui pour, dans le cadre de la mobilisation nationale contre la réforme des retraites et pour protester du coup contre cette réforme, pour dire que les étudiants aussi sont solidaires des gens qui se mobilisent contre cette réforme, parce que nous aussi on va être concernés par cette réforme et donc il est légitime de se mobiliser. Ça permet aussi de porter d'autres revendications comme la fin de la précarité étudiante, dans le sens où il faudrait augmenter les bourses, augmenter les APL, donner plus de logements crous, etc. Donc voilà, c'est à la fois pour protester contre la réforme des retraites, mais aussi contre la politique du gouvernement en général.
Vous parliez de la précarité étudiante, ce qui est un peu mis le feu aux poudres aussi, c'est cet étudiant qui s'est immolé du côté de Lyon.
Oui, bien sûr, ouais, cet étudiant syndicaliste qui s'est immolé pour dénoncer la précarité, qui vit dans des conditions précaires, et ça qui a déclenché la mobilisation chez les étudiants avant tout, c'est-à-dire qu'avant même la mobilisation de la réforme des retraites, c'est-à-dire quelques semaines qu'on a été mobilisés contre la précarité étudiante, et pour dire que ça suffisait, les réformes destructrices, les conditions d'études étaient déplorables. Donc oui, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on se mobilisait contre ça aussi.
Alors comment vous voyez un peu la suite du mouvement, vous ?
Bah, le mouvement continuera tant qu'il n'y aura pas de retrait du projet de réforme, et d'une. Et voilà, et une fois qu'on aura enfoncé une première porte, qu'on aura gagné ça, bah, ce sera le moment de porter d'autres revendications. Donc du coup, les revendications seront précarité étudiante. Et voilà, revendiquer la hausse des APL, la hausse des bourses, la hausse du nombre de logements crous. Donc voilà, donc c'est la lutte continue jusqu'à la fin.
Alors on a voulu interviewer des étudiants de Sciences Po Lille, mais il se trouve qu'en Assemblée Générale, ils ont pris cette décision de ne pas s'exprimer personnellement devant les journalistes. Ils ont édité un tract qu'ils distribuent aux journalistes et aux médias. Alors je vous lis quelques extraits. Donc communiqué des étudiants mobilisés de l'IEP de Lille, mobilisation contre les réformes et la précarité. Donc les revendications, le soutien total au secteur public en grève, menacé par toutes les précédentes réformes, le retrait de la réforme sur l'assurance chômage, l'abandon par le gouvernement de son projet de réforme des retraites. Il y a des revendications liées à la précarité étudiante, pour le retrait de la loi ORE, la suppression de Parcoursup. Et donc l'Assemblée générale du lundi 9 décembre vote le blocage de Sciences Po Lille mardi 10 décembre et appelle à rejoindre la manifestation 14h30, porte de Paris.
Pierre Mathieu, directeur de Sciences Po Lille.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe aujourd'hui là, devant Sciences Po ?
Bon, il y a eu plusieurs phases. Il y avait une assemblée générale hier soir qui réunissait pas beaucoup de monde, qui avait voté un blocage. Donc le blocage a été installé. Nous, l'école, on avait décidé ce matin de ne rien faire, donc de laisser le blocage fonctionner. Dans la matinée, il y a eu 300 ou 400 lycéens qui sont arrivés au gré de leur pérégrination dans la ville de Lille de façon très excitée. Ça a suscité l'intervention de la police avec gaz lacrymogène. Ça a conduit à ce que pas mal de lycéens se rentrent de manière un peu affolée, rentrent dans la bibliothèque. Donc on a dû fermer les bibliothèques parce que les gaz lacrymogènes étaient rentrés, donc ça picotait un peu. Puis ensuite, à 12h, il y avait une assemblée générale pour organiser la suite du mouvement. Et l'Assemblée générale, de façon assez improbable, a abouti à un vote égalité entre débloquer ou maintenir le blocage. Voilà, donc ça a provoqué à nouveau des tensions parce que les étudiants qui étaient pour le déblocage ont considéré que ceux qui étaient pour le blocage avaient triché dans le vote. Donc ils ont entrepris de se rendre vers Sciences Po, donc de traverser la rue pour débloquer d'eux-mêmes. Donc ça a provoqué évidemment, vous imaginez, des mouvements de population. Et la conséquence de cela, c'est que je suis intervenu avec l'administration pour empêcher que les deux groupes d'étudiants s'affrontent. Voilà, donc, et là maintenant, ceux qui étaient en faveur du blocage et qui sont partis en manifestation, voilà, donc nous, on va donner accès à l'école au personnel administratif qui a quand même vraiment besoin de travailler, et puis on va maintenir le bâtiment fermé pour des raisons de sécurité, et on va probablement réouvrir la bibliothèque, parce que là, pour le coup, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui veulent travailler. Voilà, on en est là, quoi.
Comment vous voyez ça ? Vous comprenez ce mouvement social, finalement, auquel des étudiants impliqués veulent participer ?
Ben, je me suis exprimé en Assemblée Générale, hein. J'ai dit que moi, en tant que citoyen, je n'avais aucun problème avec le droit de grève, avec le fait de se sentir concerné par un projet gouvernemental et d'y être hostile, et que donc j'étais complètement d'accord avec ça, et que ça ne me posait aucun problème qu'une partie de mes étudiants soit engagée dans ce mouvement, et que même la semaine dernière, nous avions autorisé les absences pour participer au mouvement, donc on est de ce point de vue-là plutôt positif, mais qu'en revanche, en tant que directeur de Sciences Po Lille, je me devais de permettre l'accès à l'école pour les étudiants et pour les personnels qui souhaitent travailler, qui pour le moment sont empêchés de le faire, et qu'il y avait donc une espèce d'équilibre à trouver entre l'expression légitime d'un droit de grève, d'un droit de protestation, etc. d'un côté, et de l'autre côté, la liberté laissée aux enseignants, aux étudiants et aux personnels qui souhaitent, eux, étudier et travailler, le faire. Voilà. Et donc c'est sur cette base-là que le débat a eu lieu en Assemblée Générale et qu'il a abouti à ce résultat bizarrement égalitaire. Voilà.
C'est par là, hein, la manif.
Allez, go. Allez, hop. Allons faire la révolution.
Ok, on est toujours à Lille et donc là, on est Porte de Paris, le point de rendez-vous de la manif. Il est 14h15, donc pas tout à fait l'heure du rendez-vous. Je dirais qu'il y a un peu moins de monde quand même que jeudi dernier. Hein. Et on va essayer d'aller récolter des témoignages sur place.
C'est tous ensemble qu'il faut lutter. C'est tous ensemble qu'on va gagner. Public, privé, on est tous attaqués. C'est tous ensemble qu'il faut lutter.
Je m'appelle Arnaud, je suis enseignant à Roubaix.
Alors qu'est-ce qui vous amène dans la rue aujourd'hui ?
En priorité, la lutte contre la réforme des retraites, qui n'est que pour seul but en fait de mettre la main sur nos économies. De plus, depuis hier, on a la preuve que M. Delevoye copine avec le monde des assureurs, avec 64 000 euros de défraiement en tant que président d'honneur. Moi, je trouve quand même qu'il y a largement de quoi descendre dans la rue.
Le ministre Blanquer a essayé de rassurer les professeurs sur le montant des retraites. Comment vous voyez ça, vous ?
Comme un piège, parce que d'une part, la somme annoncée pour l'instant, rapportée au nombre de profs en France, va nous amener dans la poche quelques dizaines d'euros, 20-30 euros par an. Ça, c'est une belle revalorisation. D'autre part, Blanquer voit l'augmentation des salaires par les primes. Or, on ne cotise pas sur les primes. Donc en fait, il y a un double piège.
Alors comment ça se passe la mobilisation, vous, avec vos collègues dans votre établissement ?
Malheureusement, mon établissement, en fait, c'est d'une mollesse extraordinaire. Mais ce qui m'a rassuré ce matin, c'est de voir que les lycéens commençaient à se bouger à nos côtés.
Et comment vous voyez la suite, alors, vous ?
Jusqu'au bout. Il faut faire reculer le gouvernement.
Bonjour, je suis Maurice Arzec de la CGT à Niche. Voilà, aujourd'hui on est dans la rue pour les inégalités, surtout au point de vue comme en retraite. On se bat surtout pour nos enfants et nos petits-enfants. Ils vont commencer à travailler, ils vont avoir 27-28 ans et ils vont être obligés de travailler jusqu'à 70 ans. Voilà. Et pour tout ça pour une misère.
Alors qu'est-ce qui est marqué sur votre panneau ? Vous pouvez nous le lire, hein ?
Sur notre panneau, c'est marqué comment la retraite, c'est une escroquerie parce que les salariés vont perdre entre 200 et 300 euros à la fin de leur vie de travail par rapport à aujourd'hui. Donc on ne va pas de retraite à point. Voilà, c'est tout.
Je m'appelle Kevin.
Alors qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ?
Moi, c'est pour la greffe, les retraites, pour le boulot, pour tout, quoi.
Vous avez un gilet jaune et vous êtes...
Oui, gilet jaune.
Gilet jaune de où alors ?
De Douai. Ouais. Et on lâche rien, ce matin on était au moins 1000 personnes à Douai et il faut que ça continue tout partout en fait, on lâchera jamais rien.
Alors comment ça se passe, comment ça s'organise un peu la mobilisation du côté des gilets jaunes de Douai ?
La CGT fait un appel et puis nous on se allie avec la convergence ensemble.
Vous n'êtes pas syndiqué, c'est ça ?
Non, mais je suis gilet jaune et avec la CGT, on se allie ensemble en fait.
Il n'y a pas de dissension entre les syndicats et les gilets jaunes chez vous ?
Non, c'était calme, ça s'est bien passé, bonne enfance, c'était pacifique ce matin.
On n'a pas le choix, monsieur. La lutte, elle doit être commune, parce que si on ne sort pas de nos cases, on a perdu. C'est ce que Macron souhaiterait, c'est nous voir nous diviser, nous opposer. Et nous, on est là pour l'unité, simplement pour la même dignité pour tous. Comme dit Soprano, on ne veut pas rouler en Porsche, on veut vivre décemment, que ce soit un salarié, un retraité ou un chômeur. Moi, pour ma part, je suis chômeur. Avec la réforme chômage qui vient d'avoir lieu, c'est un génocide social qui est en place. Clairement, M. Macron est un terroriste social. Il n'envoie peut-être pas des balles, mais ses lois les assassinent. On voit des jeunes qui s'immolent, on voit des mamies faire les poubelles, ça devient insupportable. Pendant que se gavent et on touche pas leur gare Drouan qui plus est. Donc moi je suis du même rond-point que ce jeune homme. On est là dans un esprit de solidarité et j'ai envie de dire, il est temps que les barrières tombent pour la lutte des classes communes. On est tous impactés par la politique macroniste. Donc on n'a plus le choix d'être là et mobiliser à ce jour. Ça c'est important.
Vous étiez là jeudi dernier aussi
Moi j'étais sur Douai. Après c'est la mobilité. Ma conjoncture personnelle, vous voyez, j'ai 800 euros d'assédic, j'ai 775 euros de facture. Donc c'est compliqué de manger, donc mettre de l'essence, ça le devient également. Là, je suis venu avec un quart de la CGT, car l'union se fait, on n'a pas d'autre choix. On est tous ensemble, on est solidaires, bonne ambiance dans le bus, et petit à petit, ça se construit, les convergences, elle est là, il me semble, avocats, médecins, pompiers, il manque plus que la police. J'ai envie de dire, maintenant, j'ai envie de leur dire, de baisser les matraques, c'est le dernier rempart face à l'État, s'ils nous laissent passer, le problème est vite réglé finalement. Et j'ai envie de dire, là, depuis un an de lutte, tous ces éborgnés, tous ces blessés, il y a un moment donné, moi je suis pas violent, mais on pense à le devenir. Quand je vois des mamies en fauteuil roulant se faire réprimander, qu'on leur donne du sursis, je vois des choses à la télé qui sont inadmissibles. Et là, la colère, elle monte, elle est grandissante. Et quand on n'a plus rien comme pour moi, avec 25 euros pour faire le mois, la colère, elle est légitime. Je suis pas une vitrine brisée, moi, mais c'est bien pire, c'est bien plus violent à l'intérieur. J'ai déjà pensé me foutre en l'air, mais je le ferai pas, ça serait leur donner raison. Et j'irai pas mourir dans mon silence. Je viens me battre, je viens exprimer ma colère. Et après, on ira où on doit aller, on n'a plus rien à perdre de toute façon. Mais on a l'espoir. Comme je dis, les gilets jaunes, c'est une douleur, mais avant tout un espoir. Et maintenant, la conjoncture se fait, l'union des forces, on est là pour ça, simplement.
Je m'appelle Vincent, je suis militant à la CGT de la métropole européenne de Lille.
Alors qu'est-ce qui vous amène dans la rue aujourd'hui?
Plusieurs choses. Bon, déjà la défense du système de retraite par répartition et aussi en filigrane la défense des services publics parce que c'est ça aussi qui est menacé en parallèle. Donc c'est pour ces raisons-là que moi je suis dans la rue avec mon syndicat pour justement défendre nos droits et espérer en gagner un peu de nouveau. Mais bon.
Est-ce qu'il y a aussi des revendications internes aux gens de la MEL? Parce que donc la MEL c'est la métropole européenne de Lille. La communauté de communes autour de
ouais,
Lille.
C'est ça. Des revendications en interne. Simplement, c'est que la MEL sera aussi impactée par rapport aux réformes des retraites, par rapport aussi à la loi de transformation de la fonction publique, qui effectivement affaiblit les organisations syndicales, qui affaiblira aussi la défense individuelle des agents en termes. Donc voilà, notre principale revendication, c'est justement maintenir une fonction publique forte, avec des partenaires sociaux qui ont leur mot à dire, de manière à ce que justement les agents ne perdent pas. C'est aussi pour ça qu'on est là.
Je suis Frédéric Parizeau, secrétaire général de la CGT de la métropole européenne de Lille. Alors moi je vais parler pour mon champ de syndicalisation, donc les fonctionnaires territoriaux. On vient de subir la réforme de la fonction publique après 10 ans de gel du point d'indice. Alors on s'attaque à nos conditions de travail, nos rémunérations et maintenant le gouvernement entend s'attaquer à notre système de retraite basé jusqu'à aujourd'hui sur la solidarité intergénérationnelle et sur les 6 derniers mois de notre carrière pour passer à une retraite à points où tout le monde va perdre, basé également sur une valeur du point dont on ignore la valeur à long terme. Donc voilà quoi, il y en a marre comme on l'entend dans les slogans.
Est-ce qu'il y a aussi des revendications internes à la métropole européenne, aux salariés de la métropole européenne de Lille?
Oui, alors on a également, alors je ne vais pas dire qu'on est là pour ça aujourd'hui particulièrement, là c'est vraiment sur les revendications nationales qu'on est sorti massivement dans la rue, mais effectivement on a un certain nombre de griefs contre l'exécutif actuel. Et je ne crois pas trahir la parole de mes collègues en disant qu'on est très impatient de passer un autre mandat avec les affaires judiciaires qui s'accumulent. Et malgré tout, un exécutif qui frappe de plus en plus fort sur les salariés et sur les représentants syndicaux. On a vécu une véritable campagne de répression syndicale. Par ailleurs, alors pour la petite anecdote, ce soir, le président Castelin signera en grande pompe la charte pour l'emploi des seniors. Alors je ne suis pas là pour stigmatiser cette population de salariés qui a des difficultés particulières à garder un emploi, mais bon, c'est quand même presque indécent de s'occuper de l'emploi des seniors quand le peuple français et les fonctionnaires de la MEL demandent à partir en retraite plus tôt et d'avoir des garanties sur ces conditions de départ en retraite. On aurait bien voulu aussi entendre M. Castelin, président d'une des plus grosses métropoles de France, donc s'expliquer, en tout cas donner son avis sur ces sujets. nationaux, voilà.
Alors moi c'est Darius.
Anna.
Alors là vous êtes super équipé, vous, donc casque, lampe torche, lunettes de protection, et vous êtes des street medics, c'est ça?
C'est bien ça.
Et alors ça consiste en quoi en fait?
C'est venir en aide sur tous les blessés, que ce soit FO, que ce soit manifestants ou simples passants, et voilà, donc on vient apporter une aide d'urgence en termes de secourisme, quoi.
Vous faites ça souvent en fait?
Moi personnellement c'est depuis les manifestations CPE, donc moi ça date. Anna, c'est plus récent.
Moi ça fait assez récemment que j'ai rejoint les médics, mais je fais des manifestations depuis assez longtemps. Ouais.
Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu les différentes situations dans lesquelles vous intervenez?
Sur un peu tout, hein, que ce soit gavage, charge TRS, de la bobologie, le gars qui s'est éclaté la cheville sur le bord du trottoir, voilà, on fait de tout. Ouais. De tout. Comme sur les postes de secours classiques, type Croix-Rouge, protection civile, mais à part que là, nous, on travaille en milieu dégradé, donc en manif, quoi, donc là où les secours classiques ne peuvent pas intervenir.
Et alors, vous faites ça bénévolement? Vous travaillez dans la santé de manière générale ou...
Alors, on est tous bénévoles, après, issus de milieux très divers, on a aussi bien des anciens pompiers que des pompiers encore en activité, que de l'étudiant. Enfin voilà, après c'est des gens lambda qui sont secouristes au sein d'un assaut de secours ou non d'ailleurs. Mais voilà, après la base c'est quand même d'avoir un minimum de bagages en secours pour intégrer ce genre de groupe, quoi.
Est-ce que, alors j'imagine que vous êtes aussi un peu témoin d'une montée de violence ou pas dans les manifestations, des rapports aussi compliqués avec la police?
Nous on est en première ligne, après c'est vrai que sur l'île on a la chance d'avoir une plus ou moins bonne entente avec les services de police. Toujours pareil, c'est en règle générale il n'y a pas trop de soucis avec notre groupe, maintenant c'est au cas par cas, parce que quand il y a des tensions, quand il y a les moments de combat, tout simplement, tout ce qui est combat urbain entre CRS et manifestants, ça peut être un peu plus compliqué pour nous. Après, c'est à nous de respecter certaines positions et garder une neutralité. C'est garder une neutralité pour que ce soit envers les manifestants ou que ce soit envers les forces de l'ordre, quoi.
Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis manipulatrice en électroradiologie au CHU de Lille.
Alors qu'est-ce qui vous amène dans les rues de Lille aujourd'hui?
La réforme des retraites pour la deuxième fois. Tout simplement parce que la réforme à points ne nous convient pas, même si je suis qu'en début de carrière. À chaque quinquennat, j'ai le droit à une nouvelle réforme, donc si ça continue comme ça, moi je vais travailler jusqu'à 80 ans et aller avec 300 euros de retraite, quoi, à la fin.
Alors j'imagine qu'il y a aussi, parce que vous êtes plusieurs de votre service ou de votre profession avec des panneaux, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la situation particulière des manips, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, les manipulateurs, l'année dernière, il y a déjà 2 ans même, on a eu le droit de passer en catégorie A ou de rester en catégorie B. Ça consiste à quoi? D'aller en catégorie A, grosso modo, c'est gagner plus d'argent mais perdre la pénibilité du travail. Et ceux qui ont décidé de rester en catégorie B, garder leur pénibilité du travail mais n'avaient pas de hausse de salaire. Donc en gros, dans le même service, on est les mêmes personnes à faire le même travail, mais on n'a pas les mêmes salaires, on n'a pas les mêmes conditions de travail. Tout ça parce que certains se rapprochent de la retraite ou d'autres étaient en début de carrière. Et alors que c'est pas normal, on fait exactement le même travail. Il est autant pénible que pour elle ou que pour moi. Et pourtant, on ne gagne pas le même salaire et on n'a pas le droit de partir au même âge à la retraite, par exemple. Il y a ça, bien sûr. Ensuite, le fait qu'on travaille tout le temps, mais maintenant c'est constamment en sous-effectif. Parce qu'il y a des arrêts longue maladie qui ne sont pas remplacés, parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses pour remplacer ces arrêts. Aussi tout simplement parce que on fait en fait un travail de deux personnes, même en temps normal en fait. Du coup, c'est les patients qui en pâtissent et qui doivent attendre dans les couloirs pendant une heure, tout ça, quoi.
Ce que vous me décrivez comme situation, on peut la généraliser à tout l'hôpital public?
Ah ouais, ouais. Moi, je parle pour ma profession en tant que manique parce que c'est une profession qui n'est pas très connue. On a tendance aussi un peu à être oublié. Les patients nous prennent souvent pour des infirmières parce qu'on a amené à poser des voies veineuses, injecter tout ça. Mais c'est pareil pour les aides-soignants, c'est pareil pour les infirmiers. Tous les paramédicaux, on est dans la même galère, quoi. Pas de hausse de salaire pour des conditions de travail qui sont plus que misérables. On n'a pas le droit d'être remplacé quand on est malade ou en congé maternité parce qu'on nous dit qu'il n'y a plus de sous dans les caisses. Enfin, ils ne nous donnent pas les moyens de travailler dans des conditions de travail convenables et de s'occuper de notre patient en bonne et due forme. Du coup, ça revient à faire un travail bâclé et à mettre en danger le patient, en fait, quelque part. Parce que quand vous faites un travail vite, vous travaillez comme dans une usine alors qu'on est dans un hôpital public. Il y a des incidents qui arrivent, forcément.
Alors récemment, il y a eu un plan, quelques hausses de salaire pour une partie des salariés de l'hôpital public. Comment vous avez vu ça, vous ?
Une partie très infime qui concerne les urgences. C'est très bien pour eux, je suis contente qu'ils aient eu gain de cause, mais par contre, j'ai envie de dire, je fais pas partie du service des urgences et ça m'empêche pas de faire tous les jours des urgences parce que les patients dans un hôpital, ils vont pas bien, que ce soit d'une heure à l'autre, ils se dégradent, donc du coup, on les envoie pas dans le service des urgences pour aller se faire soigner, on les fait descendre dans notre service en fait, on les rajoute en plus sur notre programme, notre vacation, et c'est pas un ou deux patients, c'est souvent 6, 8, 10 patients en fait par jour au minimum quoi. Donc c'est mignon parce que ça a été attribué à une certaine partie définie de l'hôpital, mais on en fait tous des urgences en fait en vérité. C'est juste que officiellement on n'est pas un service d'urgence. C'est officieux tout ça.
C'est Thierry de la CGT de Lille, d'EDF, Électricité de France. La question des retraites, si ça touche l'ensemble des salariés, ça touche aussi les 3 ou 4% de salariés qui ont des statuts particuliers, dont les électriciens et gaziers, donc on est concerné, donc on est là.
Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette réforme et comment vous voyez un petit peu cet argument que c'est des gens qui ont des statuts à part qui manifestent principalement dans ces manifs?
Ouais, non, moi je vois pas vraiment que des électriciens et gaziers, j'ai vu du rabot du tilleul, j'ai vu des salariés de rabot du tilleul, j'ai vu des salariés de la métallurgie, enfin bon, j'ai pas vu que des électriciens et gaziers ou des cheminots, quoi.
Est-ce qu'au-delà de cette réforme des retraites, il y a aussi des revendications liées au service public de l'énergie?
Ah oui, c'est clair. De toute façon, les revendications au-delà des retraites, là du coup, c'est la remontée de dividendes, elle ne devient plus supportable du côté de gaz, du côté Elec, c'est pareil. Les riches, ils nous coûtent trop cher. On voudrait faire sans eux, quoi.
Donc la remontée de dividendes, c'est l'argent qui va aux actionnaires, c'est ça?
Oui, c'est ça, aux actionnaires, enfin, ou à l'État maintenant, puisque EDF appartient encore à l'État. Ceci étant, quand une entreprise comme Edis, elle remonte 80% de son résultat net à la maison mère, il y a un problème. Et ça ne nous convient pas parce que ça met les salariés sous tension, c'est moins d'effectifs pour effectuer le travail. Chez les gaziers, c'est pareil. Plus personne, y compris l'encadrement, les managers, sont en difficulté pour faire correctement leur travail, comme dans les hôpitaux, comme dans beaucoup d'entreprises d'ailleurs. Et aujourd'hui, ça c'est plus supportable et c'est ce monde capital qui veut toujours faire de la prédation sur les richesses créées par les salariés qui nous convient plus, donc au-delà des retraites, c'est ce qui fait qu'on est dans la rue aujourd'hui.
Alors comment vous voyez la suite un peu du mouvement où,
La suite, on la voit victorieuse, c'est-à-dire un recul du gouvernement et un nouveau monde qui arrive avec une autre répartition des richesses.
Vous parliez avec vos collègues, vous êtes en train de couper les feux de circulation, c'est ça?
Oui, c'est ça. L'idée, c'est de faire monter la pression et faire comprendre au gouvernement et à nos dirigeants d'ailleurs que les électriciens et gaziers sont déterminés à agir, y compris sur l'outil de travail. À titre symbolique, ce sont les feux de signalisation qui seront coupés le long du parcours de la manifestation lilloise.
Donc reprendre en main l'outil de travail, ça veut dire aussi
quoi, des coupures à venir?
Oui, ça veut dire des coupures ciblées, décidées collectivement, des édifices publics, enfin voilà, tout ce qui aujourd'hui symbolise le pouvoir capitaliste ou le pouvoir de l'État, ce seront des cibles des électriciens et gaziers, ça c'est clair.